Alors, on va, si vous voulez, partager pendant quelques instants sur le thème de la grâce. J'étais étonné parce qu'en lisant le petit feuillet, pour ceux qui le lisent, Trésor quotidien, justement aujourd'hui, c'était sur le thème de la grâce aussi. La grâce qui est supérieure à tout. Et je souriais un peu au fond de mon cœur. Je me disais, tiens, c'est comme un encouragement pour aller dans ce sens. D'abord, j'aimerais vous rappeler ce que dit le Cantique des Cantiques, qui est un merveilleux poème d'amour, dans le chapitre 8, au verset 7, « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. » Ici, c'est un amour bien sûr spécial, c'est celui de Dieu d'abord, et bien sûr ensuite celui que Dieu nous accorde aussi, notamment pour notre épouse, si on est un homme, et pour notre époux, si on est une femme. S'il y a cet amour divin, eh bien, comme le dit ce texte, même s'il y a les grandes eaux de l'épreuve qui se déversent dans nos vies, si on rencontre beaucoup de difficultés, des fleuves même qui essaieraient de balayer, n'est-ce pas, notre vie, le texte dit que ces grandes eaux, ces fleuves ne peuvent pas anéantir, éteindre cet amour. Et finalement, je réalisais que si nous sommes aujourd'hui sauvés par grâce, c'est parce qu'il y a cette sorte d'amour dans le cœur de Dieu, dans le cœur de notre Créateur. Dieu a un amour extraordinaire pour toutes ses créatures. Et vous connaissez sûrement Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde », n'est-ce pas ? Or, quand on considère ce qu'est le monde, c'est une entité d'hommes et de femmes qui sont rebelles à Dieu, dit Paul aussi dans Éphésiens 2, et nous étions de leur nombre, des hommes, des femmes qui sont ingrats parce qu'ils bénéficient des bienfaits de Dieu sans jamais lui rendre grâce, comme si c'était un dû, alors que c'est seulement un bienfait que Dieu accorde à ses créatures en les plaçant sur cette terre qu'il a lui-même formée de ses mains. Et malgré cette ingratitude, malgré cette rébellion qu'il y a dans le cœur de l'homme, dont il ne sait d'ailleurs même pas pourquoi, souvent. On est rebelle contre Dieu, on est rebelle contre Jésus. D'ailleurs, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils l'ont crucifié comme un malfaiteur, alors qu'il n'avait fait que du bien. Vous voyez? Et malgré tout cela, eh bien, cette méchanceté qui est dans le monde à cause du péché n'a pas empêché Dieu d'envoyer son Fils sur la terre. C'est justement parce qu'il aimait tant. Il aimait tant ces hommes qui pourtant étaient rebelles que cette marée de méchanceté qui venait de la terre ne l'a pas empêché de manifester son amour en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Et de la même façon, c'est parce que Jésus, en venant sur la terre, a été rempli de cet amour que malgré tout ce qui a pu émaner du cœur des hommes et parfois même de ses propres disciples, que Jésus a accepté toutefois de rester sur la croix et de donner sa vie pour nous, de nous faire don de sa justice. Parce que Jésus, c'est le seul homme juste qui a marché sur cette terre. Tous autant que nous sommes, n'est-ce pas, depuis Adam et Ève, nous sommes tous des injustes. Tous des injustes. Mais Jésus est le seul homme juste, c'est-à-dire qui a accompli parfaitement toute la volonté du Créateur sur cette terre, sans jamais dévier, n'est-ce pas, d'un iota, comme il le disait. Il a tout accompli. Et cette justice qui était la sienne, eh bien, il nous l'a offerte en sacrifice, en donnant sa vie en sacrifice. Il nous a fait don de cette justice. Et en partageant ce matin avec vous le pain et le jus de raisin, je pensais, n'est-ce pas, à cette justice que Dieu nous a donnée en offrant sa vie. Lui seul pouvait faire cela, et il l'a fait. Malgré l'opposition qui s'est manifestée contre lui dès les premiers moments où il a commencé son ministère public, et on pourrait dire même dès sa naissance, puisque alors qu'il n'avait pas encore 2 ans, un roi fou a essayé de le tuer, n'est-ce pas, en massacrant des dizaines et des dizaines d'enfants dans la région où il était né. Mais vous le savez, Dieu veillait sur son fils, hein, parce que s'il était fils de l'homme, il était aussi parfaitement fils de Dieu. Et le Dieu éternel. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Jean dira dans son évangile, en introduction, que la loi, elle est venue par Moïse, elle a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Et si on parle aujourd'hui de la grâce, si un pécheur peut devenir un saint, c'est parce que Jésus a offert son sang, a offert sa vie en sacrifice. Et cela est résumé très bien dans un texte de l'apôtre Paul, dans une épître qui est une épître excellente de présentation, disons, du salut pour quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'est l'évangile, ce qu'est le salut. Lisez l'épître aux Romains et vous allez découvrir pas à pas, n'est-ce pas, ces richesses qu'il y a dans l'offrande de Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble, si vous voulez bien, dans Romains 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, quelques versets qui nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, ici il s'agit bien sûr d'Adam et de sa désobéissance dans le jardin d'Éden, et on sait que cette désobéissance, elle a entraîné toute l'humanité dans la désobéissance aussi. Et si nous sommes des pécheurs quand nous naissons, c'est à cause d'Adam, dans sa désobéissance. Alors il dit, si cela a eu lieu, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup, et on pourrait à la place de beaucoup dire tous, hein, parce que c'est la réalité, excepté Jésus, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, et ici il s'agit de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Et là, dans le beaucoup, on pourrait dire que Dieu voudrait que tous les hommes soient dans ce beaucoup-là. Hein. S'il n'en tient qu'à Dieu, Dieu le veut. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. S'il y en a qui ne le sont pas, c'est vraiment pas à cause de Dieu, mais c'est à cause simplement de la liberté de chacun de décider pour sa vie s'il veut ou pas être sauvé. Mais sinon, Dieu voudrait que tous, autant que nous sommes ce matin, soyons sauvés et participions finalement à ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi, ici c'est la loi de Moïse, est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ces quelques mots sont rendus dans une autre version, la version du Semeur, par ces paroles. Un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice, pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Là où le péché a fait son œuvre, une œuvre de destruction, une œuvre de démolition, démolition d'abord du cœur de l'homme, privé de son Créateur, privé de la gloire de Dieu, comme le dira aussi un autre passage de l'Épître aux Romains, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Là où le péché a réduit parfois même l'humanité à des actes d'animaux, et aujourd'hui encore, on le voit, n'est-ce pas, régulièrement dans les informations qu'on nous transmet, eh bien, la Bible nous dit ici que le péché qui avait abondé, qui proliférait même selon une version, eh bien, Dieu a réglé ce problème en manifestant sa grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que la grâce de Dieu est la réponse, en fait, à tous les maux que la terre connaît aujourd'hui encore. La grâce peut rétablir ce que le péché a détruit. La grâce peut reconstruire ce que le péché a démoli, détruit, divisé. La grâce de Dieu est réellement la réponse aux besoins de l'humanité, comme nous le chantons, c'est Jésus qui est la réponse à tous les besoins, tous les maux de la terre. Et si au milieu de nous ce matin, il y a une personne qui peut dire « ma vie, elle est démolie, mes espoirs sont détruits », eh bien, j'aimerais lui dire « placez votre confiance dans la grâce de Dieu, dans l'œuvre de Jésus, et alors vous verrez comment, là où le péché a pu abonder, la grâce va surabonder, c'est-à-dire va combler votre cœur s'il était vide, et va guérir aussi votre cœur s'il était blessé, s'il était meurtri, va renouveler votre espérance, va changer votre destinée. La grâce de Dieu accomplit toutes ces choses. » Et même nous, en tant que chrétiens, qui sommes dans la grâce, n'est-ce pas ? Je l'espère en tout cas, qu'après avoir commencé par la grâce, nous sommes toujours dans la grâce. Nous avons toujours besoin de que Dieu nous rappelle toute la richesse qui est rattachée à son appel. Car il arrive parfois que, étant prisonniers dans ce monde encore, puisque nous sommes toujours dans le monde, même si nous ne sommes plus du monde, il arrive parfois que des choses nous agressent, des pensées nous assaillent, et parfois même nos regards sont tentés de revenir vers ce monde qui parfois nous fait des offres alléchantes, n'est-ce pas ? De ce monde émanent des offres alléchantes. On sait que lorsque Jésus est venu dans ce monde, même qu'il était le Fils de Dieu, Satan lui a fait des offres alléchantes. Ouais. Mais Jésus savait qu'il avait mieux que ces offres. Et j'aimerais vous dire, quelles que soient les offres alléchantes que ce monde vous fait, ça n'en vaut vraiment pas la peine parce que la grâce de Dieu est supérieure. Ce que Dieu peut vous donner au travers de sa grâce dépasse largement tout ce que le diable pourrait vous proposer. Et parfois même si certains hésitent d'abandonner leur vie au Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre des avantages qu'ils ont acquis par leurs efforts ou par leur héritage, eh bien sachez que toutes ces choses que vous pensez être des richesses, un jour vous les perdrez. Que vous le vouliez ou pas, vous serez obligé de les perdre. Et qu'est-ce qui vous restera ce jour-là ? Rien du tout. Comme on dit souvent, que nos yeux pour pleurer. Et que des regrets dans l'éternité, comme cet homme qui, étant riche dans sa vie, n'a pas voulu considérer ce que Dieu lui disait. Et quand il est mort, il se retrouve dans le séjour des morts, parce qu'après la mort, il y a encore une vie pour notre âme. Ce n'est pas l'anéantissement, la mort physique de notre âme, mais après la mort, il y a une autre vie. Et quand il se retrouve dans ce lieu de tourment, eh bien, il ne lui reste plus que des regrets de ne pas avoir écouté Dieu quand il était sur la terre, de s'être laissé bercer par l'illusion des richesses terrestres du moment présent. Et puis maintenant, ben, il est toujours dans ce lieu. Jésus en a parlé il y a 2000 ans, mais il est toujours dans ce lieu, cet homme. Et ça, c'est terrible quand on pense à cela. Parce que Dieu lui avait fait pourtant une offre quand il était sur la terre. Une offre qui peut paraître folle aux yeux des gens cartésiens, mais pourtant c'est l'offre la plus sage que Dieu puisse faire à un être humain, puisque Dieu lui dit, tu ne vas pas seulement investir pour cette terre où tu vas un jour la quitter, mais tu vas maintenant investir pour le ciel, pour l'éternité où tu vas vivre. Et ce que Dieu nous offre au travers de Jésus, c'est cela, c'est une vie éternelle, comme nous l'avons lu. Si nous recevons, et c'est là la condition, je dirais, si nous recevons le don de la justice, parce que la grâce, si elle s'exerce, c'est parce qu'il y a eu un don, le don de justice. La grâce n'est pas quelque chose de bon marché, vous savez, où on peut s'arranger avec Dieu, faire un petit troc, non, non. Il y a des gens qui pensent là qu'ils iront au paradis parce qu'ils vont au dernier moment s'arranger avec Dieu, on va faire un petit marchandage. Non, non. Vous savez, s'il y a une grâce qui surabonde, c'est parce qu'il y a un don de justice. Et vous avez lu dans le texte avec moi que si on veut vivre la vie éternelle, il faut recevoir d'abord le don de la justice. Ce don de la justice, c'est croire que lorsque Jésus est mort sur la croix, il y a 2000 ans en arrière, Jésus était en train de payer à notre place notre rachat, était en train de payer à notre place notre dette envers Dieu, était en train de payer notre entrée dans le ciel, notre accès au royaume de Dieu. Et quand nous croyons que Jésus l'a fait, alors nous renonçons à faire quoi que ce soit nous pour gagner le ciel. Dans beaucoup de religions, les hommes pensent qu'il faut gagner son ciel. D'ailleurs, c'est une expression, il faut gagner son ciel. Non, on ne peut rien gagner. On ne peut pas gagner le ciel. C'est Jésus qui nous l'a gagné, en offrant sa vie. Pour nous, l'entrée dans le ciel, elle est gratuite, parce que Dieu, lui, a payé le prix fort, parce que Jésus a offert sa justice. Aucun être humain ne pouvait atteindre le haut niveau qui permettrait à un être humain d'entrer dans le ciel. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, en parlant à des Juifs d'abord, que la loi de Moïse n'a rien réglé dans l'humanité. Bien que le peuple d'Israël ait été choisi par Dieu pour être en quelque sorte le terrain d'expérience de la loi parfaite, parce que Paul dit aussi que s'il y a une loi parfaite qui était donnée par Dieu aux hommes, c'est cette loi que Dieu a donnée à Israël par Moïse. Mais malgré que ce peuple avait reçu cette loi n'a pas permis à ce peuple d'accéder aux standards de Dieu. Au contraire, nous l'avons lu, cette loi n'a fait qu'accentuer la loi du péché. Parce que Paul l'explique dans Romains 7, il dit « Quand j'ai pris connaissance de la loi qui me disait « Tu ne convoiteras pas, j'ai convoité. » Donc la loi a accentué, a révélé en fait le péché qui était en moi. Et vous voyez cela tous les jours avec les enfants, vous lui dites « Ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il fait ?» Il le fait. Le commandement devient pour lui un révélateur du péché qui est dans son cœur. Tant qu'il n'y a pas le commandement, vous ne pouvez pas voir qu'il est pécheur. Mais quand vous commencez à lui donner des ordres, c'est là que vous allez voir qu'il est pécheur parce qu'il va faire tout le contraire. Par esprit de contradiction. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, c'est simplement parce que le péché est dans le cœur de l'être humain. Et ainsi, donc, la loi n'a fait que révéler ce péché et n'a jamais permis à aucun être humain d'être sauvé par la pratique de la loi. Bien que la loi disait, si tu mets ces choses en pratique, tu vivras par elles. Oui, sauf que personne n'a réussi à la mettre en pratique. Et dès qu'on enfreint un commandement, c'est comme si on avait, n'est-ce pas, enfreint tous les commandements. Donc, vous voyez, la loi ne réglait rien. Mais ce qui règle notre problème du péché, de la désobéissance et de notre relation avec Dieu, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Son œuvre est l'œuvre parfaite pour nous racheter tous. Qu'on soit, comme le disent certains, des grands pécheurs ou qu'on soit des petits pécheurs, on est des pécheurs tout simplement. Voyez, qu'on ait tué des dizaines de personnes ou qu'on n'ait jamais tué une mouche, on est quand même des pécheurs. Et la grâce de Dieu est suffisante pour racheter la vie des uns comme des autres. Hein, vous savez que le premier homme à qui Jésus a dit « Tu seras avec moi dans le paradis », ce n'était pas un saint. Hein. C'était un bandit, un meurtrier qu'on était en train de crucifier à côté de Jésus. Et pourtant, quand cet homme a mis sa foi dans l'œuvre que Jésus était en train d'accomplir, immédiatement, sa vie a été rachetée de toute cette vie de péché. Il n'a pas eu le temps de réparer quoi que ce soit. Mais simplement parce qu'il a mis sa foi dans cette œuvre, dans cet homme qu'il voyait là, et cette foi, il l'a exprimé clairement parce qu'il a cru que Jésus n'allait pas rester dans la mort. Il a dit « Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus n'a pas attendu qu'il vienne dans son règne pour se souvenir de lui parce que alors qu'il était encore en train de mourir, lui aussi sur la croix, il a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Alléluia. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu intermédiaire, n'est-ce pas, où le pécheur pourrait expier ses péchés. Non, non, c'est Jésus qui a expié nos péchés. Et si nous le croyons, alors nous entrons dans la grâce. Dieu peut alors manifester sa grâce dans nos cœurs en changeant notre nature de pécheur et faire de nous maintenant des saints. Ce que Paul dit dans la deuxième aux Corinthiens, où il dit « Celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui a mis sa foi en Jésus, qui a renoncé à sa vie pour la confier à Christ au travers des eaux du baptême, celui-là, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ces choses nouvelles, ça fait partie donc de toute notre expérience chrétienne ensuite. Parce que vous l'avez remarqué, même si la Bible parle comme cela, avant qu'on soit vraiment semblable à Jésus dans nos comportements, dans nos actions, dans notre caractère, dans nos sentiments, ça prend du temps. Hein, et je dis cela pour ceux qui viennent de se convertir, hein, ne soyez pas catastrophés si vous constatez encore dans votre vie de tous les jours que vos actions, vos mobiles, vos sentiments ne sont pas conformes à celles du Christ. Vous êtes encore des petits enfants en Christ qui ont besoin de grandir. Et c'est tout le travail de la croissance spirituelle que de nous amener finalement à développer ce caractère. Si vous êtes né de nouveau, si vous êtes en Christ, si la grâce de Dieu agit en vous, elle a fait de vous maintenant de nouvelles créatures. Et vous devez le croire. Vous devez le croire. Parce que si vous ne le croyez pas, vous allez continuer de vivre comme avant. Voyez ? Paul parle d'une transformation de notre intelligence, de la façon dont nous devons nous voir. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas transformés, même si on nous a enlevé les chaînes, on va continuer de se comporter comme des esclaves. On va vivre dans la nouvelle création avec une mentalité d'esclave. C'est un peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui est mendiant et puis d'un seul coup, quelqu'un l'adopte et il devient maintenant prince dans un château. Mais il n'a pas compris encore cela, qu'il a droit maintenant, comme un enfant, n'est-ce pas, de ce prince, d'aller s'habiller comme le prince, alors il continue d'aller mendier. Vous voyez ? On peut avoir été racheté et garder une mentalité d'esclave. De croire que, voilà, dès que le péché s'approche, maintenant, on ne peut plus lutter. Non, la Bible nous dit, maintenant que tu es en Christ, tu peux lutter contre le péché. Tu peux faire mourir ces choses qui, autrefois, étaient des liens par lesquels Satan t'entraînait dans le mal. Sinon, pourquoi Paul disait « faites mourir les mauvaises actions de votre corps ». Si on ne pouvait pas le faire, est-ce que vous pensez que Paul le demanderait de le faire ? Non. Dans la grâce, nous avons reçu ce pouvoir. Et ici, le texte le dit clairement, si nous recevons l'abondance de la grâce qui est lié aussi au don de la justice, vous remarquerez que c'est au présent aussi. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement dire « oui, je l'ai reçu hier », mais il faut qu'aujourd'hui encore, tu le reçoives. Tu restes dans la foi. Notre vie nouvelle, elle dépend de notre foi quotidienne. Je dois chaque jour croire dans la justice que Dieu me donne. Cela est nécessaire. Pourquoi ? Parce que je suis constamment face à mes erreurs, face à mes péchés. Qu'est-ce que je fais lorsque je constate que j'ai désobéi ou que je n'ai pas fait la volonté de Dieu comme Dieu voulait ? La Bible dit, nous devons confesser nos péchés. Mais pour pouvoir sortir de ce piège, il faut que je reçoive aussi le don de la justice. Il faut que je croie que Dieu me pardonne mes péchés parce que Jésus a offert sa vie pour moi. Donc c'est valable au moment où je me convertis, mais c'est valable tous les jours de ma vie. Et si je crois que Jésus l'a fait, alors comme le dira l'apôtre Jean dans sa première épître, alors le sang de Jésus me purifie de tout péché. Vous voyez ? Nous vivons dans la grâce, et pour vivre dans la grâce et pour rester dans la grâce, nous avons chaque jour besoin de rester dans la foi que c'est grâce à l'œuvre de Christ que je suis accepté de Dieu, que je suis dans la maison de Dieu, et non pas à cause de mes efforts. Non, c'est grâce à ce que Jésus a fait. Je reçois le don de justice et je vis aussi dans la grâce de Dieu. Je reçois la grâce dont j'ai besoin chaque jour. Et quand vous recevez la grâce, c'est comme ça que vous grandissez. C'est comme ça que vous devenez petit à petit semblable à Jésus, dans votre caractère, dans vos sentiments, et aussi que vous arriverez à pratiquer les œuvres que Jésus a pratiquées, que Dieu vous demande de pratiquer. Jésus lui-même disait, « Tout disciple accompli sera comme son maître. » Et il disait, « Si vous croyez en moi, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites. » Et il a même dit, « Et vous en ferez même de plus grandes. » Alléluia. Voilà ce à quoi nous sommes appelés au travers de la grâce de Dieu. Dieu veut faire de nous vraiment des êtres nouveaux, semblables à son Fils. Et là où nous en sommes, dira Paul, eh bien, il ne faut pas considérer l'arrière, mais il faut aller de l'avant et marcher dans cette grâce. Parce que c'est cela qui vous permettra de triompher de tous les obstacles, de toutes les difficultés que vous trouverez sur votre chemin. Même un homme comme Paul, qui avait une grande connaissance du Seigneur et de son plan, vous le savez, cet homme était comme chacun de nous. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il vivait avec Christ, c'était par la grâce de Dieu. Un jour, il a eu besoin de la grâce de Dieu. Il a prié en demandant à Dieu d'éloigner de lui cet ange de Satan qui venait tout le temps le persécuter. Et il a fait cette prière trois fois, à trois reprises, je pense, des moments de sa vie où il a été confronté à cet ange de Satan. Et lui, peut-être, quand il faisait cette prière, n'est-ce pas, il pensait que Dieu allait enlever cette persécution, cet ange de Satan pour le souffleter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a pas enlevé le problème. Dieu n'a pas enlevé l'obstacle. Dieu n'a pas enlevé la persécution. Si vous lisez la vie de Paul, depuis le départ de sa conversion jusqu'à sa mort, il a tout le temps été un homme persécuté. Il ne pouvait pas mettre les pieds dans une ville sans que, même des fois, une émeute, n'est-ce pas, se presse dans la ville contre lui. Obligé de fuir comme un voleur, alors qu'il venait pour apporter la bonne nouvelle de Dieu, et obligé de fuir comme un voleur constamment. Là même descendu d'une muraille dans un panier, n'est-ce pas, pour éviter qu'on le tue à la sortie de la ville. Ça, c'était l'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit, je ne te délivrerai pas, mais ma grâce te suffit. Ça veut dire que face à tes obstacles, face à tes difficultés, si tu restes dans ma grâce suffira pour t'aider à surmonter, à affronter ces choses. Oui. Et ça, c'est aussi une leçon que nous devons intégrer dans notre vie. Nous ne serons pas toujours délivrés des obstacles. Jésus lui-même l'a dit, ne soyez pas étonnés, vous serez persécutés à cause de mon nom. On se moquera de vous, on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez ? Donc Jésus n'a pas dit... Si tu crois en moi, si tu te convertis, tout va aller bien. Voilà, on te déroule même le tapis rouge et puis tu n'auras aucun problème dans ta vie. Ce n'est pas ça que Jésus a dit. Mais il nous promet que dans les épreuves que nous connaîtrons, la grâce de Dieu nous suffira. Dans la mesure où nous ne nous privons pas de cette grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu nous le dit dans Hébreux 12, verset 15, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Oui, si tu as un besoin... En tant qu'enfant de Dieu, tu peux t'approcher à tout moment. C'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il n'y a pas un endroit précis où il faut aller pour recevoir le secours de Dieu. Mais là où nous sommes, n'est-ce pas, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, la Bible nous dit, nous avons un accès libre au trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans tous nos besoins. On ne sait pas comment Dieu va nous secourir. Mais on est sûr d'une chose, c'est qu'il va le faire. Allez ? C'est pourquoi il ne faut pas non plus avoir toujours des conceptions préétablies sur la façon dont Dieu va nous venir en secours, mais il faut simplement faire confiance à Dieu. Et pour rester pratique, quand nous étions avec ma femme à l'aéroport, il restait 20 minutes, voyez, avant de pouvoir enregistrer nos bagages et partir. Ben, on était là, on se demandait comment Dieu allait faire, mais on était là, confiants. Dans la grâce de Dieu. Ouais. Et alors que j'essayais de joindre un colonel depuis une demi-heure, avec mon téléphone, et qu'il ne répondait pas, tout à coup, il a répondu. Et il a accepté de se déplacer en pleine nuit de chez lui jusqu'à la préfecture, ouvrir son bureau, son tiroir, prendre le passeport de ma femme et le remettre à quelqu'un pour qu'il nous l'amène à l'aéroport. Et tout ça, ça a été fait en 20 minutes. Vous voyez, la grâce de Dieu, on ne sait pas comment elle va agir. Mais quand nous sommes devant l'obstacle, nous ne devons pas douter de la grâce du Seigneur. Dieu est fidèle et sa fidélité, elle nous dépasse même parce que nous ne sommes pas toujours fidèles à nos engagements avec Dieu. Mais la Bible dit même quand nous ne sommes pas fidèles, lui, il reste fidèle. C'est ça qui nous encourage dans nos difficultés. Alors, restons dans cette grâce aussi parce que c'est chaque jour que nous devons vivre de la grâce de Dieu. C'est un peu comme la manne que Dieu envoyait pour le peuple d'Israël dans le désert, qui devait être mangée le jour même. Sinon, demain, elle était pourrie, n'est-ce pas ? Et il devait faire cet acte tous les jours, excepté le jour du sabbat. Il vivait de cette grâce aussi. S'il n'y avait pas eu cette manne, il serait mort de faim dans le désert. Mais Dieu leur a donné cette manne pendant 40 ans. 40 ans de manne, n'est-ce pas ? Jusqu'à ce qu'ils entrent dans le pays promis. Bon, eh bien nous... Tant qu'on est sur la terre, on a besoin de la grâce de Dieu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. On ne peut pas s'appuyer sur notre acquis, sur, vous savez, nos expériences. Les expériences nous servent à quelque chose, mais dans le domaine de la grâce, on est comme des nouveau-nés. Hein. Chaque jour, on est là, Seigneur, on dépend de toi. Peut-être à des niveaux différents, bien sûr, que lorsqu'on vient de naître, mais on dépend de la grâce de Dieu. Comme les Juifs étaient dépendants de la manne, alors il ne faut pas s'en priver. Il faut vraiment chaque jour compter sur sa grâce. Et la Bible nous dit aussi dans 2 Pierre 3,18 que nous devons croître dans la grâce. C'est-à-dire vraiment comprendre de quoi Dieu est capable avec sa grâce. Entrer vraiment, découvrir comme Abraham qui entre dans le pays et Dieu lui dit « Visite le pays, Visite le pays. Regarde, observe. Et nous sommes invités, nous aussi, à découvrir l'immensité de la grâce de Dieu. La Bible dit, Dieu a mis en Jésus-Christ tout pleinement pour chacun de nous. Vous avez tout pleinement, mes frères et sœurs. Croyez-le. Pour votre vie, pour votre famille, vous avez tout pleinement. Ça ne se passera pas peut-être comme vous l'avez pensé, mais vous avez tout pleinement en Christ. Vous aurez le secours, la consolation, l'aide dont vous aurez besoin dans les moments difficiles. Et puis vous connaîtrez aussi des moments de gloire, des moments de victoire, de joie, n'est-ce pas ? Ça fait partie de notre vie chrétienne. Oui. Et si nous restons et nous croissons dans la grâce, alors nous ferons appel à sa grâce aussi quand nous en aurons besoin. Et surtout, c'est important parce que nous sommes appelés chacun de nous aussi à propager un message, une bonne nouvelle. Et l'Église, elle est efficace, non pas quand elle fait de la morale aux gens, n'est-ce pas ? Non pas quand elle dit, comme la loi de Dieu disait, « Tu ne dois pas faire. Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu fais. Tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire cela. » Quand l'Église est porteur de la loi de Moïse, elle n'accomplit pas sa mission. Ce que l'Église a reçu comme mission, c'est d'être propagateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu. Un peu comme ce torrent dont Ézéchiel a vu, n'est-ce pas, les effets dans une vision, dans Ézéchiel 47, vous pourrez lire cela. Il a vu un fleuve qui sortait, n'est-ce pas, du sanctuaire. Et partout où ce fleuve arrivait, paf, les arbres fruitiers, les eaux étaient assainies, les poissons vivaient, etc. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, vous retrouvez un peu la même pensée. Un fleuve qui coule et des arbres fruitiers qui nourrissent, vous vous rendez compte, des arbres fruitiers qui mûrissent tous les mois. Qui donne des fruits tous les mois, c'est formidable ça. Hein, si vous aviez un arbre comme ça dans votre jardin, vous seriez content. Hein, des cerisiers qui produisent des cerises tous les mois. Formidable. Mais ça, c'est quoi ? C'est aussi une image de la grâce de Dieu. Partout où nous annonçons la grâce de Dieu, nous allons voir fleurir des choses extraordinaires. Parce que même là où le péché a abondé, là on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut changer cette situation ? C'est aller trop loin. Mais vous prêchez la grâce de Dieu et d'un seul coup, vous voyez des choses extraordinaires se produire. Parce que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle va surabonder. Dans la mesure où elle est reçue, bien sûr, parce que ça, on ne peut pas obliger les gens à croire, on ne peut pas obliger les gens à recevoir, à mettre leur foi dans l'œuvre de Christ. Mais nous sommes invités quand même à leur annoncer, parce que, comme Paul le dit, si on ne leur annonce pas, comment est-ce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent le faire ? Donc, on doit le faire. Et je dis cela parce que bien souvent, moi-même, et on l'a constaté, en tant que chrétien, nous serions tentés plutôt de faire de la morale avec les gens. Si tu es comme ça, c'est parce que Dieu ne peut pas te bénir parce que tu vis dans le péché. Oui, il faut qu'il le sache, mais il ne faut pas s'arrêter là. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, quelle que soit la malédiction qui pèse sur ta vie, la Bible dit qu'on reste sous la colère de Dieu. La colère, c'est en suspens, si vous voulez. Puis un jour, elle va se déverser sur le monde. Mais même si on est sous la colère de Dieu, là où le péché a abondé, si on reçoit la grâce de Dieu, ça peut changer. Et alors, ce n'est plus la colère de Dieu qui est sur nous, mais c'est l'amour du Seigneur qui vient dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, ne nous privons pas, mes frères et sœurs, surtout dans l'époque où nous vivons, n'est-ce pas, où on voit vraiment la progression du péché, comment le péché dégrade tout, détruit toutes les valeurs, même des valeurs qui ont duré pendant des siècles. On voit maintenant, il y a une confusion totale. Et on parlait de cela avec des frères et sœurs récemment, se disaient, mais dans une génération, comment seront les hommes et les femmes ? À qui aurons-nous enseigné ? On aura enseigné à l'école que finalement, si un homme se marie avec un autre homme, ça peut se faire comme quand un homme se marie avec une femme. Comment les choses vont évoluer ? Ça va être dur. Vous voyez ? Mais, quelle que soit l'évolution du péché, si l'Église continue à prêcher la grâce de Dieu, nous verrons toujours les miracles. Des pécheurs être changés en saints, alléluia. Des vies brisées être restaurées. Et des gens meurtris être guéris par le Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons besoin, nous, de rester attachés à la grâce de Dieu et ensuite de prêcher la grâce de Dieu aux gens, surtout à nos amis, à ceux qui vivent parfois dans le péché. Mais ne soyons pas des moralistes, mais soyons des hommes de grâce. Amen. Amen. Ils s'en allèrent prêcher partout, dit Marc 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Eh bien, C'est ce que je vous souhaite à chacun de vous, que vous puissiez vivre la grâce. Et si quelqu'un ce matin est venu avec un fardeau, un besoin, ben je vous en prie, ne repartez pas comme cela, mais confiez-vous dans la grâce de Dieu. Amen.